Et donc, je vous invite, en ce lendemain de fête, vous devez être peut-être fatigué, je ne sais pas, à entendre deux textes que vous connaissez par cœur. Comme ça, vous pourrez les suivre tranquillement, et si vous perdez le fil de la lecture, vous le retrouverez facilement. Le premier, c'est la parabole du semeur. Vous la connaissez ? Paf ! Voilà. Je la prends dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 13, les versets 3 à 9. Il leur parla longuement en parabole et il disait, « Le semeur sortit pour semer, et comme il semait, quelques grains tombèrent le long du chemin. Les oiseaux vinrent et les mangèrent. D'autres tombèrent dans des endroits pierreux, où ils n'avaient pas beaucoup de terre. Ils levèrent aussitôt parce qu'ils ne trouvaient pas une terre profonde. » Mais quand le soleil se leva, ils furent brûlés et séchèrent, faute de racines. D'autres tombèrent parmi les épines, et les épines montèrent, les étouffèrent. D'autres tombèrent dans la bonne terre, ils donnèrent du fruit. Un grain donna 100, un autre 60, un autre 30. Que celui qui a des oreilles entende. Et puis alors, une autre parabole que vous allez découvrir, bien sûr, c'est dans Luc, au chapitre 15, la parabole dite du fils prodigue, ou des deux fils, ou du père, ou je ne sais pas, il y a plusieurs titres. Donc c'est dans Luc, au chapitre 15, les versets 11 à 32. Il dit encore, un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de la fortune qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils rassembla tout ce qu'il avait et il partit pour un pays lointain où il dissipa sa fortune en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à manquer de tout. Il se lia avec un des habitants du pays qu'il envoya dans ses champs faire paître les pourceaux. Il aurait bien désiré se rassasier des caroubes que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Rentré en lui-même, il se dit « Combien d'employés chez mon père ont du pain en abondance et moi, je péris à cause de la famine. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes employés. » Il se leva, il alla vers son père et comme il était encore loin, son père le vit et il fut touché de compassion. Il courut se jeter à son cou et il l'embrassa. Le fils lui dit, « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe, mettez-lui une bague au doigt, des sandales aux pieds, amenez le veau gras, tuez-le, mangerons, réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort, il est revenu à la vie, il était perdu, il est retrouvé. » Ils commencèrent à se réjouir. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint, il s'approcha de la maison, il entendit de la musique et des danses. Il appela un de ses serviteurs, s'informa de ce qui se passait. Et ce dernier lui dit, « Et ton frère est de retour, et parce qu'il lui a été rendu une bonne santé, ton père a tué le veau gras. » Il se mit en colère, il ne voulut pas rentrer. Son père sortit pour l'y inviter. Alors il répondit à son père, « Voici qu'il y a tant d'années que je te sers. Jamais je n'ai désobéi à tes ordres. Et à moi jamais tu n'as donné un chevreau pour me réjouir avec mes amis. Mais quand ton fils que voilà est arrivé, celui qui a dévoré ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Toi, mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi. Tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien se réjouir et s'égayer, car ton frère que voilà était mort, il est revenu à la vie, il était perdu et il est retrouvé. » Avant de revenir sur ces textes, je vous invite à prendre le cantique, je ne sais plus quel numéro, 417 dans les livrets bleus. Le 417 dans les livrets bleus. Quelle strophe, Georges ? Les deux strophes.
Thank you.
Oui, Père, augmente la confiance que nous avons en toi, sachant que c'est toi qui as eu d'abord confiance en nous. Et guide-nous pour nous éviter les erreurs, les errements. Guide-nous pour que nous puissions vivre vraiment dans ta lumière. Amen. Voilà ces deux paraboles du semeur et du fils prodigue, comme on dit. Vous les connaissez, j'en suis certain. J'ai vu à vos têtes que vous étiez très familier avec ce type de texte. Elles sont hyper connues et j'aimerais bien revenir avec vous sur ces textes parce que elles sont peut-être trop connues. C'est bien là le problème. Lorsqu'on a un texte comme cela en mémoire qui est vraiment connu depuis notre enfance, l'école du dimanche, l'école biblique, etc., qu'on a entendu mille et une fois, sur lequel il y a eu des tas de prédications, on sait tous ces textes, on n'est plus tellement surpris, d'autant plus qu'il y a un des deux textes où Jésus donne la clé de lecture, vous savez, pour le semeur en plus. Donc c'est pire que tout, là, vraiment, il n'y a plus rien à dire là-dessus. Alors, peut-être être un peu iconoclaste, mais je vais revenir sur ces deux textes en disant ceci. Le semeur, c'est un tissu d'évidence et d'erreur. C'est vraiment une histoire qui est une ineptie. Ça ne vous pose pas de problème, parce qu'à force de l'entendre, mais pour la personne qui l'entend pour la première fois et qui est paysan, comme c'était le cas des auditeurs de Jésus, puisque dans la Palestine du temps de Jésus, je ne sais pas, au moins 90% de la population est autour de la terre, ou paysanne, ou ouvrier paysan, que sais-je encore. Entendre une parabole comme ça, entendre ce qui a été dit, c'est percevable, vraiment percevable. Ou le gars qui raconte est pris pour un fou, ou un charlatan, quelqu'un qui dit n'importe quoi. Et c'est pas compliqué, je veux dire. Même lorsqu'on se met avec le geste d'Auguste du semeur à la Victor Hugo, je peux vous dire que les paysans ne mettaient pas de grains sur la route, dans les haies et sur les cailloux. Pour la bonne raison, c'est que les grains étant rares et chers, les rendements étant très faibles, on ne gaspillait absolument rien. Vous pouvez avoir des petites erreurs, évidemment, vous me direz, mais si, j'en ai vu, bien sûr. Mais normalement, ce n'est pas le cas. Alors le fils prodigue, vous me direz, est-ce que c'est mieux? Le fils prodigue, c'est pas mieux. On est tellement habitué au fils prodigue. Alors on n'a pas l'explication de Jésus, mais on a un tableau de Rembrandt, vous savez, où le fils là est à genoux au pied du père avec les deux mains, la main féminine et la main masculine. On a tout dit là-dessus, vous savez. Alors cette repentance qui est merveilleuse, il fait un retour, etc. Ces deux garçons sont deux têtes à claque. Ils sont... Mais c'est vrai, si vous lisez le texte, vous verrez qu'ils ne sont pas du tout sympathiques, ni l'un ni l'autre. Même celui qui se met à genoux au pied de son père. Ils sont restés, excusez-moi, il y a quelques jeunes, ils sont restés un peu ados. Hein, je veux dire, quand on a 14-15 ans, c'est normal qu'on soit ados. Lorsqu'on a un âge adulte, c'est moins normal. Et ils sont restés ados, ils n'assument rien. Ils n'assument rien. Il y en a un qui dit, moi j'ai toute la vie devant moi, je suis balèze, etc. Je dis, donne-moi mes avoirs, je m'en vais, je vais vivre le truc comme ça. Et puis quand ça va mal, eh bien il se dit, tiens, mais chez papa, même les ouvriers ont à manger. Ah, je vais retourner, puis comme ça au moins j'aurai à manger. Parce que c'est ça le début de la démarche. Il est intéressé le gamin. Il n'assume pas son échec, il dit, bon, y a papa qui est derrière, avec le frigidaire qui est plein, à la limite, je vais retourner chez lui, et ça va retourner, hein, je veux dire, ça va remarcher, à la limite, un petit peu, peut-être pas tout à fait, C'est vrai qu'il a quand même conscience au bout d'un moment qu'il a fait quelques dérapages, mais enfin bon. Quant à l'autre, le frère aîné, il est coléreux, capricieux, égoïste. Je veux dire, il n'est pas très sympathique non plus. Je veux dire, hein, il a une petite crise au moment où le père lui demande de rentrer et d'aller faire la fête avec le frère cadet. Alors c'est vrai qu'on est quand même un peu surpris lorsqu'on lit ces paraboles pour la première fois, qu'on fait bien attention à ce qui est écrit dans le texte et non pas à ce qu'on a entendu sur ces textes mille et une fois. Mais quand on fait bien attention, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe, je veux dire. D'autant plus que dans le fils prodigue, le père, c'est vraiment un papa gâteau, hein, dire. Il est prêt à passer tout à ses fils, hein, je veux dire. Hein, bon, on imagine mal que ce soit une image de Dieu quand même, hein, parce que c'est ça la clé de lecture. Quand même un peu dérangeant. Pourquoi cette manière de raconter ainsi en disant des choses qui sont difficilement recevables, en fait, au final. Alors, c'est vrai que Jésus parle en paraboles. Ce sont des paraboles qui nous disent le royaume, ce sont des allégories, évidemment, bien sûr, qui nous disent quelque chose d'essentiel. Au final, c'est l'amour de Dieu dont on parle, c'est le royaume de Dieu dont on parle dans ces paraboles qui sont si bizarres. Je veux dire, c'est l'amour de Dieu face aux problèmes de l'humain, des contingences qui sont là, face à l'esprit humain étriqué, petit, etc. C'est l'amour de Dieu face à tout ce qui est de l'ordre de la superficialité de nos vies, de nos intérêts, de nos calculs mesquins, que sais-je encore. Mais ces paraboles sont dites sur un ton de scandale et de provocation exprès, sans doute pour que nous disions, mais qu'est-ce qu'il nous raconte là finalement? Pourquoi est-ce qu'il nous dit un truc comme ça qu'on ne comprend pas finalement? Il y a une provocation qui est là de la part de Jésus. Parce que nous sommes dans l'ordre du scandale, finalement. Parce que là aussi, nous sommes habitués à tellement de discours sur ces paraboles qu'on est plus surpris par la conclusion qu'il y a. Parce que nous sommes dans le scandale. Nous sommes dans le scandale et Jésus le manie dans ses prédications, dans ses paraboles, justement pour nous faire réagir d'une certaine manière. Dire, mais finalement, la parabole du berger, elle n'est pas recevable. La parabole des deux fils, elle n'est pas recevable non plus. Et d'ailleurs, quand même fantastique que ceux qui ne méritent pas puisse recevoir en abondance. Et le semeur qui en met partout, dire pourquoi est-ce qu'il en met dans la haie, alors qu'on sait que la haie, ce sont des figures de l'humain qui sont, bon, un peu superficielles, et ainsi de suite. Après tout, ce n'est pas mérité. Et on n'aime pas tellement, comme cela, la gratuité. Ça ne nous fait pas tellement plaisir, finalement. Dire, on a bien que une vie humaine soit jugée, pesée, et puis qu'il y ait quand même quelques conséquences. Si vous voyez un méchant qui réussit, il y en a. Des gens que vous n'aimez pas qui réussissent autour de vous, vous en connaissez. Moi aussi, je vous le dis tout de suite, j'en connais plein. On dit, tiens, s'il pouvait prendre une peau de banane un jour en glissant sur le trottoir, bon, ou l'équivalent, quoi. Ce serait mérité. Voilà le mot qui sort. Au moins, il y aurait de la justice, quand même. Hein? Voilà le mot qui sort. On est comme ça. On aime bien qu'il y ait des relations de cause à effet. Puis on aime bien que celui qui est gentil soit plutôt récompensé, que celui qui est méchant soit plutôt puni, et ainsi de suite. Vous voyez? Comme ça. Et pourtant, Jésus, quand il nous raconte le semeur, nommé partout, avec ses évidences, un semeur qui sort pour semer. Évidemment, si... S'il est en train de semer, c'est qu'il est sorti. C'est pas la peine de le dire. Et pourtant, il sort. C'est bien l'évangile qui est contenu dans cette phrase. Tout l'évangile est dans cette phrase, une évidence épouvantable. Il est sorti pour semer. Dieu sort de lui-même pour aller vers nous, pour nous rencontrer, et il en met partout. Il en met partout. C'est la grâce universelle là qui est là. C'est la grâce universelle et qui s'exprime et qui n'est pas notre justice, qui n'est pas notre logique. On n'est pas sur le même tempo. C'est pour ça qu'il est difficile d'entendre ces paraboles, d'entrer dans ces démarches et de dire que finalement, celui qui est méchant, eh bien, il est pardonné. Que celui qui est calculateur, mesquin, eh bien, on lui donne autant qu'aux autres. La grâce universelle. Tout le monde peut recevoir le don de Dieu. Tout le monde peut être sauvé. Alors ça a des conséquences intéressantes, sa grâce universelle. Si vous imaginez, comme je le dis à ce propos, le paradis comme un grand banquet, vous savez comment on le fait, table de Sainte-Seine par exemple, voyez. Si vous posez le principe de la grâce universelle, vous risquez d'être assis à côté de Hitler ou d'un assassin d'enfants, voyez. Alors je ne sais pas quelle attitude vous aurez au cours de ce repas imaginaire, mais qui nous dit un peu la grâce. Est-ce que vous vous sentirez à l'aise entre un assassin d'enfants et Hitler, par exemple? A priori, on ne se sentirait pas à l'aise. Enfin, ce qui me concerne, je ne sais pas pour vous. Et pourtant, c'est ce que disent ce type de texte. La grâce est universelle. Le don, il est pour tout le monde. Il est pour les pires horreurs, comme pour les personnages les plus saints. La logique de Dieu. C'était lors du scandale à vue humaine. Nous sommes dans le scandale. Quelque chose que nous ne pouvons pas recevoir. Et c'est pareil pour ces deux garçons, là, ces deux têtes à claque dont je parlais tout à l'heure. Ben, il y en a un qui a reçu entièrement et l'autre auquel je dis, mais viens faire la fête, quoi. Je veux dire, reste pas comme ça, finalement. L'un comme l'autre sont au bénéfice d'un accueil du Père tout à fait exceptionnel, voire incompréhensible. Si seulement il y avait une remontrance de la part du Père, me dire, bah, écoute, hein, t'en as fait quand même de belles dans ta vie, vous savez. Quel parent ne dirait pas ça? Franchement. Pas simple. Mais la grâce est la grâce. Point. Et l'amour, l'agapé de Dieu, c'est l'agapé. Point. Là aussi, pas de commentaires. Nous sommes de l'ordre de l'absolu. Dieu aime. Point. On aime ou on n'aime pas. Mais on ne peut pas être entre les deux. Vous savez que lorsqu'on met un qualificatif à l'amour, c'est une catastrophe. Comme je dis toujours, lorsque un couple se sépare, celui ou celle qui s'en va dit à l'autre pour le consoler, « Mais tu sais que je t'aime, que je t'aime. » Bien. Et ce bien est là pour dire qu'il n'y a plus du tout d'amour. Évidemment. Ça va de soi. L'amour est telle plénitude, quelque chose de tellement extraordinaire que dès qu'on met un qualificatif derrière, patatras, tout s'effondre. Voilà, on est dans le scandale quand même, on est dans le scandale, et pourtant, malgré notre esprit tordu, calculateur, rétributif, si je puis employer ce néologisme, eh bien, c'est quelque chose d'essentiel qui se vit, qui se dit dans ces deux paraboles à travers ces récits qui sont quand même surprenants. Il y va de la liberté de Dieu. Dieu est amour, certes, c'est ce que dit la Bible, et en ces termes, la première lettre de Jean. Dieu est esprit aussi, évidemment, mais Dieu est liberté aussi. Dieu est liberté, Dieu n'est pas lié par un raisonnement, par un calcul, par quoi que ce soit. Dieu est liberté, et son amour signe cette liberté. De telle sorte qu'effectivement, nous pouvons être profondément surpris par l'attitude de Dieu lorsque nous est annoncée la grâce, cette grâce qui nous dépasse, la liberté. La liberté de faire pleuvoir sur les bons et sur les méchants, on va dire l'Ecclésiaste par exemple, dire et bien d'autres textes de la Bible. Cette liberté sans laquelle il ne peut pas y avoir de vie au finalement. Dieu donne à qui il veut, comme il veut, quand il veut, mais cette liberté implique effectivement qu'à un reflet de cette liberté de Dieu qui vient éclairer nos vies d'une certaine manière, qui vient nous interpeller, nous secouer précisément à travers ces textes qui ont un parfum de scandale. Cette liberté de Dieu, elle est là pour nous. La première des choses, c'est que dans cette liberté de Dieu, il y a une relation aux hommes qui va être fondée sur la liberté parce que Dieu a confiance en nous. C'est ce que disent ces deux textes. Ces deux textes disent la confiance de Dieu en nous. C'est-à-dire que Dieu ne va pas nous dire « il faut faire ceci, il faut faire cela », mais Dieu va nous laisser libres de choisir de conduire nos vies. Dieu nous donne le message d'espérance et d'amour formidable. Il y a du grain partout, il y a un accueil incroyable. Et après? Après ces paraboles, ces deux paraboles ne sont pas finies. Elles ne sont pas finies. Et c'est à nous de les finir. Qu'est-ce qu'on va faire de la récolte? Est-ce qu'on va l'engranger parce que c'est un bien précieux? Mais il faut faire attention à la parabole du riche insensé qui est là, qui nous dit si vous enfermez toutes vos richesses, vous mourrez avec vos richesses. Mais vous ne vivrez pas de vos richesses. Est-ce qu'on va faire la fête avec les amis comme ça? Ouais. Mais il y a la parabole du riche et de Lazare qui est là, qui nous dit, attention, hein, si vous ne faites pas attention à ceux qui vous entourent, si vous restez comme ça, à consommer vos richesses, sans faire attention qu'à côté de chez vous, il y a Lazare qui attend, eh bien, vous risquez de perdre la vie et l'espérance complètement et de tomber dans une sorte d'enfer d'où on ne peut pas sortir. Et oui, qu'est-ce qu'on va faire de la récolte? Est-ce qu'on la garde? Est-ce qu'on va la faire fructifier d'une manière ou d'une autre? Est-ce qu'on va re-ensemencer de champs pour que ça continue? Est-ce qu'on va faire la fête avec les amis? On va dire, mais venez tous, c'est un partage extraordinaire, un don fantastique. Mais il y a plusieurs scénarios qui sont là. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas de directive. C'est à nous de choisir, finalement. C'est à nous d'être libres et responsables. Dieu a confiance en nous. Et il sait qu'on n'aime pas trop les libertés. Bon, être dirigé, c'est bien plus simple que d'avoir à choisir. Être dirigé, avoir des directives, c'est bien plus simple que d'avoir des responsabilités, hein, et d'assumer ces responsabilités et cette liberté. Et pourtant, Dieu dit non. Non, non, non. Il y va de la dignité des êtres humains. Il y va de la dignité des êtres humains. Le fils cadet a voulu partir. Dieu lui donne les moyens de partir. Le fils cadet, aîné, a voulu rester. Il n'y a pas de problème. Il est là, il est toujours le fils. Tout ce qui est à lui, tout ce qui est au père est au fils, etc. Et il invite à rentrer faire la fête. Est-ce qu'il va rentrer, ce fils, faire la fête? Pas sûr. Ou s'il rentre, est-ce qu'il va donner une paire de claques à son frère cadet? C'est le grand frère. Hein? Est-ce que... il va lui sauter au cou, lui faire des remontrances. Enfin, on ne sait pas. Ce n'est pas dit dans le texte. Et là aussi, on peut imaginer des tas de scénarios, comme pour le semeur. Oui, la parabole n'est pas fermée. Elle est toujours ouverte. Elle est toujours ouverte parce qu'elle nous interroge, elle nous questionne à sa manière, avec ce parfum de scandale dont je parlais tout à l'heure, qui nous remet en cause, qui nous force à réfléchir, et qui est là pour nous arracher finalement à des trains-trains, à des choses qui nous semblent quotidiennes. Oui, il faut entendre ces paraboles. Ces paraboles de la liberté de Dieu qui peut nous scandaliser, parce que la logique de Dieu n'est pas la logique des hommes. Mais ces paraboles, il faut les entendre, parce qu'elles sont aussi les paraboles de la liberté de tout un chacun, finalement. La dignité de l'être humain est là. Un être humain est un être libre, finalement. Libre par rapport au monde. Et nous savons combien les peuples qui sont asservis par des régimes totalitaires sont malheureux, évidemment. Mais libre par rapport au monde, par rapport au totalitarisme mou, comme on dit, qui nous imprègne petit à petit par les médias, par le problème de la consommation mimétique, par des choses comme cela. Et qui nous enferme, finalement, dans des types de sociétés qui... finalement n'offre pas grande perspective et qui sont génératrices de bien des problèmes. Mais libre aussi par rapport à nous-mêmes. Il faut arriver à s'arracher à nos propres fantasmes, nos propres idéaux, sais-je encore. Ce n'est pas facile. Vous voyez, je vous donne un exemple tout simple. Vous avez un homme politique qui est au pouvoir. Eh bien, il sera toujours gêné s'il veut faire passer une loi qui a été proposé par l'adversaire dans la législation précédente. Vous savez, hein, ils ne sont jamais à l'aise parce qu'ils sont enfermés dans leur dogmatique politique, évidemment. S'arracher à ce qui nous enferme nous-mêmes, c'est quelque chose qui est difficile. S'arracher à nos peurs aussi. La grâce, elle est là. Elle est là et elle est pour tout le monde. Elle est là pour la liberté des hommes. Elle est là pour faire vivre. Elle est là surtout pour la dignité. Un être humain, c'est un être qui doit être libre. Nous sommes dans un face-à-face avec Dieu, finalement. Il ne faut pas l'oublier, c'est un peu l'histoire de la Genèse qui est là. Nous sommes dans un face-à-face avec Dieu, c'est l'histoire de tous ces témoignages qui sont là avec la relation parfois tumultueuse entre Dieu et son peuple, et ainsi de suite. Oui, nous sommes là dans la dignité, de la liberté, finalement, de la responsabilité. Nous sommes appelés à être des êtres adultes, des enfants de Dieu. Les enfants de Dieu, ses fils, ces terres ensemencées qui reçoivent la grâce, eh bien, c'est nous, ni plus ni moins. Chacun de nous est inscrit au cœur même de ces paraboles pour que nous puissions vraiment vivre avec Dieu, de sa parole, de sa présence, de son amour, dans la liberté et le témoignage. Amen.